Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, le patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières, 1204-1586. Tel est le titre d'un ouvrage collectif paru en 2014, publié par le Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes de l'École des hautes études en sciences sociales. Cet ouvrage est édité par Marie-Hélène Blanchet, Marie-Hélène Mongourdeau et Dan-Yuan Mureshan. Pour parler de ce travail, nous recevons deux parmi les trois éditeurs. Malheureusement, Marie-Hélène Mongourdeau n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est donc Marie-Hélène Blanchet, chargée de recherche au CNRS, et Dan Mureshan, maître de conférence à l'Université de Rouen. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la genèse de ce livre. Dan.
Bonjour d'abord. Je devrais peut-être préciser que ce volume se place dans une dynamique plus longue de la recherche qu'on a entamée en 2005, lorsqu'on a organisé à Rome, avec les deux autres collègues, un colloque à l'école roumaine de la capitale italienne portant sur le patriarcat œcuménique au XIVe-XVIe siècle, rupture et continuité. C'est alors que nous avons réussi à fédérer plusieurs équipes de recherche qui développaient de manière indépendante des études sur le patriarcat à Paris, à Athènes, à Vienne, à Berlin, en Roumanie ou en Italie. Et nous avons constitué une équipe qui, sous différentes formes, s'est réunie à plusieurs reprises. Et nous avons organisé dans le cadre du Congrès international des études byzantines de Sofia une table ronde qui portait le même titre. Il faut peut-être préciser l'allusion. Le thème du Congrès était Byzance sans frontières et nous avons fait un clin d'œil vers l'idée d'église russe hors frontières en parlant de Byzance qui, à cette époque, au XIVe-XVIe siècle, se sépare dans l'histoire avec, d'un côté, un empire qui est en train de rétrécir et, de l'autre, un monde orthodoxe qui est en train d'augmenter. Et nous avons tenté donc d'analyser les rapports qui se constituent, qui se reformulent à cette époque entre le centre et la périphérie. C'est donc une logique plus longue de la recherche qui nous permettra en 2016 à réunir cette équipe dans le contexte du Congrès international des études byzantines de Belgrade où nous allons poursuivre nos recherches sur cette thématique.
Merci beaucoup. Donc une recherche qui est longue, qui a déjà commencé depuis longtemps. Comme vous avez dit, on travaille depuis longtemps sur le patriarcat de Constantinople, et ce, à divers endroits. Il y a divers centres d'études byzantines d'habitude ou ottomanes qui travaillent sur cette histoire qui est très importante. On va voir aussi peut-être pourquoi les chercheurs s'intéressent à ça. Bon, il y a une évolution aussi dans le profil des chercheurs qui travaillent.
Tout à fait. D'abord, nous avons réussi à intégrer des équipes qui travaillaient de manière distincte sur les époques byzantines, d'un côté, sur ottomane, de l'autre. Et l'intérêt, c'était de mettre ensemble les perspectives des deux époques. Et l'autre nouveauté est marquée peut-être par un changement dans la sociologie des chercheurs qui s'intéressent à cette thématique et qui est marquée par une triple mutation de laïcisation, de déconfessionnalisation et de féminisation des rangs des chercheurs de cette problématique.
On est donc parti des milieux religieux, on est maintenant dans un état très différent où la plupart des chercheurs sont des gens d'université, des laïcs, beaucoup de femmes comme vous dites, pour bien clarifier ce terme de féminisation. Marie-Hélène Blanchet, il y a quelque chose qui étonne un peu quand on voit ce titre, le patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières, 1204-1586. On commence avant la chute. Bon, 1204 encore, on peut commencer. C'est la prise par les croisés. Et on finit à 1586. Alors, on est un peu à cheval sur une période encore byzantine et puis une période ottomane.
Ou post-byzantine, si on veut rester fidèle à la, la terminologie habituellement employée. Nous avons fait ce choix volontairement, délibérément, de travailler sur la longue durée. Donc notre objet, c'est vraiment la fin de la période byzantine, la période paléologue en particulier, mais nous avons décidé de commencer quand même en 1204, et absolument de traverser l'époque de la chute de Constantinople en 1453, donc de nous placer avant et après, en observant à la fois les ruptures et les continuités. C'était dans le titre du premier colloque de 2005, puisque cette date de 1453 est une césure tout à fait majeure. L'Église byzantine disparaît, l'Empire byzantin évidemment disparaît, et le sultan ottoman décide de nommer un patriarche et de redonner comme cadre organisationnel à la communauté grecque une église. Donc ça, c'est une décision évidemment très importante, et ça permet d'avoir une réflexion comparatiste entre la période byzantine et la période post-byzantine, sachant bien sûr qu'il y a donc une continuité, une église qui se maintient, mais refondée dans un contexte totalement différent, sous l'autorité d'un pouvoir musulman, le pouvoir ottoman, et sans plus d'empereur, ce qui change énormément la donne. Voilà. Donc nous voulions étudier le phénomène du patriarcat. Nous arrêtons pour l'instant au XVIe siècle, mais qui sait si nous nous étendrons pas plus loin dans le temps à terme. Et avec vraiment cette problématique qui est à travers l'événement majeur qui est la chute de Constantinople.
Merci. Pourquoi cette date 1586, Dan Moreshan?
1586 correspond à la transformation du siège patriarcal de l'époque ottomane, qui était situé dans l'église de la Pamma Karistos de Constantinople, en mosquée sous le patriarcat de Jérémie II, et avant l'installation vers 1600 de la grande église dans le siège actuel de Saint-Georges du Fanar. Et nous avons pris cet événement, qui est dramatique aussi dans le contexte de la domination ottomane, comme point de chute pour nos recherches.
Merci beaucoup. Alors maintenant, une question plus générale, évidemment, concernant le rôle, la présence du patriarcat dans ce monde chrétien, orthodoxe, si vous voulez, qui n'est plus un monde byzantin ou qu'il est de moins en moins. Cette autonomisation, je dirais, de l'Église par rapport au pouvoir, et un rayonnement qui dépasse les frontières de l'État byzantin, qui se rétrécissent et qui finissent par disparaître. Alors, il y a eu plusieurs idées lancées par des grands historiens. Obolensky parlait de Commonwealth byzantin, Iorga, votre compatriote, Romain parlait de Byzance après Byzance. Il y a cette idée que l'Empire, Byzance, est toujours en vie, et cette idée, cette présence s'exprime à travers le patriarcat. Qu'en est-il au fait?
Pour comprendre la nouveauté de cette époque, je ferai, si vous me permettez, allusion à la thématique actuelle des concours d'agrégation en histoire médiévale qui porte sur gouverner l'islam au Xe, XVe siècle. Et l'idée qu'on essaye de transmettre à nos étudiants, c'est de comprendre que la fin du califat abbasside de Bagdad et la brutale occupation de la capitale par les Mongols en 1258 ne correspond pas à un déclin de l'islam comme religion et comme civilisation. Au contraire, il y a une rupture dans le destin des deux, du cadre politique et de la religion. Cette époque que l'on considérait comme une époque de déclin correspond en réalité à une diffusion de l'islam au-delà du cadre historique de l'époque du califat arabe, à une floraison culturelle et aussi à une activité de mission qui élargit l'islam vers d'autres terres comme l'Indonésie et l'Afrique saharienne. De façon similaire, il faut comprendre que la fin de l'Empire byzantin ne correspond pas à un déclin dans l'histoire de l'orthodoxie, mais au contraire à un renforcement dans le cadre ottoman de la position du patriarcat qui arrive à une position de facteur régulateur de la vie d'une église réunie dans un seul cadre politique, D'un autre côté, la diffusion et la consolidation de l'orthodoxie dans les principautés roumaines, que vous avez évoquées avec Iorga, ou dans le cadre des principautés russes, avec, à partir du XVIe siècle, la reconstitution d'un empire orthodoxe après le couronnement de Ivan IV et le début d'une activité de mission orthodoxe, comme l'Église orthodoxe n'a plus fait depuis l'époque impériale, vers la Sibérie, vers l'Asie centrale. Donc, on a essayé par ce concept de Byzance hors frontières à décrire une activité du patriarcat qui représente une véritable mutation et une évolution historique importante dans le cadre de l'Église orthodoxe en tant que telle.
Merci beaucoup. Avant de revenir à la recherche sur le patriarcat et des questions peut-être plus matérielles aussi, on va écouter un extrait de la liturgie orthodoxe. Mon âme, mon âme, c'est un chant tiré du grand canon chanté pendant le grand carême. Et c'est le père Georges Tsitsis, grand protopresbyte du patriarcat œcuménique, qui chante dans la grande tradition du chant byzantin. C'était donc un extrait de liturgie orthodoxe par le père Georges Tsitsis, grand protopresbyte du patriarcat œcuménique. Nous revenons donc à notre sujet, le patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières, 1204-1586. Nous sommes en compagnie des deux éditeurs de cet ouvrage, Marie-Hélène Blanchet et Daniel Mureshan. Marie-Hélène Blanchet, une question concernant maintenant le rapport du patriarcat avec le pouvoir chrétien qui est encore là, affaibli, mais qui est encore là dans la période, la dernière période chrétienne.
Voilà, oui, donc l'empereur est encore bien présent et les rapports entre l'Église byzantine et le pouvoir se sont organisés depuis, au moins depuis Photius au IXe siècle, autour d'un équilibre des pouvoirs et ce qu'on a appelé d'ailleurs, enfin un équilibre qui est à l'avantage de l'empereur, ce qu'on a appelé le césaropapisme byzantin. C'est-à-dire que l'empereur est le représentant de Dieu sur terre, c'est lui et c'est pas le patriarche, même si on voit justement ce discours évoluer un petit peu à l'époque que nous travaillons et certains des articles qui sont dans ce volume en parlent, vers l'idée que le patriarche lui aussi se revendique comme image du Christ. Mais l'équilibre est quand même en faveur de l'empereur, en faveur de l'autorité impériale sur l'Église. L'empereur joue vraiment le rôle de chef de l'Église et on voit cette situation, cette symphonie entre les deux pouvoirs. Mais la symphonie donc joue avec un instrument qui joue plus fort que l'autre. On le voit en particulier à la fin de la période avec les deux tentatives d'union des Églises sous Michel VIII Paléologue en 1274, l'union de Lyon, et sous Jean VIII Paléologue avec l'union de Florence en 1439, où vraiment l'empereur... Alors, il faudrait rentrer dans le détail pour voir les nuances entre les deux cas. Mais l'empereur cherche vraiment à imposer l'union à son Église. Et l'Église, le patriarche et le synode, puisque l'Église fonctionne de cette façon, hein, contrairement à l'Église occidentale, l'Église ne peut pas s'opposer à la volonté de l'empereur. On voit qu'elle est soumise, et vraiment, donc jusqu'à la veille de la chute de Constantinople, symboliquement, hein, le 12 décembre 1452, l'union de Florence est proclamée par l'empereur. Donc on voit que l'Église, même si elle désapprouve, et elle désapprouve assez massivement l'union avec Rome, est obligée d'accepter les décisions de l'empereur, décisions qui sont prises en faveur de l'Empire, avant tout, du maintien et de la survie de l'Empire, mais pas de l'orthodoxie, prioritairement.
Bon, une question quand même. Le politique l'emporte sur l'Église à cette époque-là, mais l'histoire montre quand même qu'il n'y a pas eu réception de ça. Ce qui veut dire que dans le corps de l'Église, il y a un moyen qui n'est peut-être pas politique, si vous voulez, pour attraper ce genre de choses. Je ne sais pas comment l'histoire peut expliquer cela, mais quand on regarde ça de loin, on voit bien que ce genre de tentative, comme vous dites, du pouvoir politique qui cherche une issue à ces problèmes terribles à l'époque, ne marchera pas, en fait.
Il y a une tension qu'on cherche encore à vraiment bien comprendre dans le fonctionnement de l'Église byzantine. Une tension qui fait intervenir probablement l'Église institutionnelle et d'autre part les moines en particulier, puisqu'on sait que parmi justement la grande résistance que vous mentionnez, c'est celle qui vient des moines. Donc il y a de toute façon un fonctionnement de l'Église qui échappe, je pense encore un peu, qu'on essaye justement d'expliciter, de regarder dans les détails. C'est bien sûr le but de la recherche, hein. On connaît maintenant beaucoup mieux qu'avant le fonctionnement du patriarcat, le fonctionnement, le rôle du cartophylaxe à l'intérieur du patriarcat, puisque c'est lui qui tient le registre de la Grande Église, registre dont on a un exemplaire par les manuscrits de Vienne qui sont étudiés justement dans ce volume. Et on peut regarder de beaucoup plus près les actes, leur composition, les éléments qui sont exprimés, mais aussi ceux qui sont sous-entendus. La recherche avance de ce côté-là, mais justement, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine.
Cela dit, vous le faites et ça avance. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que vous êtes une grande spécialiste de l'époque, justement, du changement, du passage au pouvoir ottoman. Vous avez signé une très belle monographie du patriarche Génat Skolarios, qui est le premier après la chute. Et donc, vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. Alors, comme le temps nous presse, Dan Moreshan, une question, je dirais, difficile à expliquer en peu de temps. Cette étendue du pouvoir du patriarcat de Constantinople en dehors des limites de Byzance crée des problèmes avec les autres églises orthodoxes, autocéphales, locales.
Alors, cette problématique est résumée, bien sûr, dans la titulature du patriarche, qui est écuménique, qui est une référence à une volonté d'universalité chrétienne, mais qui ne correspond pas forcément à un universalisme de type pontifical romain qui s'exprime à travers une optique impériale. Elle est très probablement un reflet de cet idéal de l'universalité de la mission chrétienne, mais qui, comme vous l'avez bien précisé, entre aussitôt en tension avec les autres niveaux de la structure ecclésiastique, le niveau patriarcal où le patriarche de Constantinople partage son autorité avec ses autres collègues orientaux, et le niveau archiépiscopal et métropolitain. Et effectivement, c'est peut-être une des forces de ce volume que de se consacrer de très près aux rapports qui, à cette période, sont instaurés entre l'Église constantinopolitaine, le patriarcat si important de Russie, la métropole de Kiev et de toute la Russie, mais aussi avec les patriarcats balkaniques de Trnovo et de Pech, le patriarcat bulgare et serbe, l'archevêché d'Ohrid et dans une recherche signée justement par Marie-Hélène Blanchet, les rapports avec les patriarcats orientaux, notamment autour de la réception et du rejet des décisions du Concile de Florence. Et on observe effectivement les tensions que s'instaurent entre les idéaux héritées de l'époque chrétienne classique et puis les réalités qui sont dictées par les réalités politiques et ecclésiastiques contemporaines.
Pour terminer, en peu de temps, quelles sont les perspectives? La recherche actuelle se focalise sur quelque chose, elle amplifie le...
La recherche se focalise toujours sur les sources. Donc j'ai fait allusion au registre patriarcal qui est étudié très très en détail, y compris dans sa matérialité de manuscrits. On a aussi un registre patriarcal pour la fin du XVe siècle, dans quelques feuillets, mais qui permettent aussi de faire la comparaison et de voir comment ce registre se perpétue. De façon plus générale, je pense que c'est vraiment la nature de l'Église byzantine qui reste encore à élucider, son fonctionnement et son statut, et c'est cette grande mutation, le terme a été prononcé, qui se produit après la chute de Constantinople.
Ben écoutez, merci beaucoup. Il faut espérer que cela va continuer. On attend le colloque de Belgrade l'année prochaine pour les nouvelles données. Et puis, évidemment, ces deux ouvrages, parce que on parle aujourd'hui du deuxième volume, en fait. Il y a eu un premier à la suite du colloque de Rome, il y a quelques années, puis ce congrès de Sofia, et puis l'année prochaine à Belgrade, il y aura peut-être un troisième volume. On ne sait pas, oui, tout à fait. Alors écoutez, merci beaucoup. C'était le Patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières, 1204-1586, ouvrage publié par le Centre d'études byzantines néo-helléniques et sud-est européennes à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous étions en compagnie de Marilène Blanchet et d'Anne-Johan Mureșan. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Claire Levasseur. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.